Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est secrétaire d'État chargée des transports.
Bonjour à vous Jean-Baptiste Djebari.
Bonjour à vous.
Et merci d'être avec nous ce matin. 90% des trains annulés à la SNCF demain, c'est pire pour les TER, 11 lignes de métro fermées, des perturbations dans les airs, dans les écoles, dans les crèches, 70% des enseignants du primaire en grève. Vous attendiez-vous à ce que la grève soit aussi massivement suivie ?
Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, j'avais prévu que la mobilisation soit forte et que le trafic soit extrêmement perturbé. Nous y sommes, nous avons pour autant continué à dialoguer depuis le 1er octobre avec l'ensemble des syndicats des transports me concernant. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de continuer les échanges jusqu'à la semaine prochaine, puisque vous savez que le calendrier également est posé, et c'est bien la semaine prochaine, le 9 ou le 10, que Jean-Paul Delevoye fera la synthèse de l'ensemble des concertations et que le Premier ministre, dans les jours qui suivent, rendra les arbitrages s'agissant de la réforme du système de retraite.
Voilà, là, les conclusions du Premier ministre, c'est avant Noël, et absolument, le projet de loi sur les retraites arriverait à l'Assemblée après Noël, donc après en 2020, au début 2020,
enfin,
pour un vote
avant
l'été. Ça, c'est pour le calendrier, en tout cas fixé à 7h. On verra s'il bougera dans les prochains jours. Dans ces conditions, d'abord pour demain, qu'est-ce que vous dites aux gens ce matin ? Restez chez vous, en tout cas pour ceux qui le peuvent.
J'aurai l'occasion à 17h avec le président, directeur général de la SNCF et son homologue à la RATP de présenter à la fois le plan de transport qui a déjà pour partie été dévoilé hier et puis de parler aussi des modes de transport alternatifs. Mais évidemment, le trafic est tel que vous le présentez. C'est à peu près 10% de trafic qui sera assuré à la fois en Île-de-France et partout en France. Donc un trafic très dégradé. Et donc les entreprises publiques ont appelé, dans la mesure du possible, les Français qui le peuvent à reporter leur voyage. Pour le reste, nous essaierons de faire l'information la plus exacte possible, de manière à au moins solidifier les hypothèses qui existent aujourd'hui.
Mais vous dites quoi aux gens qui doivent aller travailler impérativement demain, ou ceux qui ne trouvent pas comment ils peuvent faire garder les enfants, puisque les crèches et les écoles très largement seront fermées demain?
Je leur dis la vérité, c'est-à-dire que le trafic sera très dégradé, que le gouvernement respecte le droit des grévistes à se mobiliser contre la réforme des retraites, et qu'il tente d'informer du mieux qu'il peut les millions de Français qui demain n'auront pas d'autre choix que les transports en commun pour se rendre à leur travail ou satisfaire d'autres besoins. Et donc notre travail, tel qu'il est prévu par la loi, c'est bien d'expliquer aux Français, de donner aux Français le maximum d'informations.
Alors,
sur les possibilités de déplacement demain.
De solutions alternatives, on évoque la possibilité d'utiliser les fameux cars Macron, du nom d'Emmanuel Macron, quand il était à Bercy. Ces bus pourraient effectuer des rotations supplémentaires. Est-ce que vous nous confirmez sur quel trajet? Comment ça va se passer?
Je vous confirme que nous avons discuté avec un certain nombre d'acteurs du covoiturage, évidemment des bus, et que notamment s'agissant des cars Macron, nous avons des échanges depuis la semaine dernière avec un certain nombre d'opérateurs qui sont effectivement intéressé de venir offrir du service sur Paris intramuros et un peu au-delà, au nord et au sud de Paris.
Il y a combien de cars qui sont concernés là ?
Les cars Macron, il y a environ une cinquantaine, soixantaine de cars qui pourraient être mobilisés en Île-de-France. Et nous travaillons aujourd'hui le cadre réglementaire, le cadre juridique, de manière à ce que tout ça soit évidemment très propre sur le plan légal.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de dispositions, que c'est la région qui organise. Tout cela se fait évidemment en lien avec la région, avec la mairie de Paris, qui a évidemment aussi des dimensions de sécurité que nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous dire ce matin par où les cars passeront. Si les gens ont besoin de prendre un car demain, vous leur dites quoi?
Les cars passeront ce que nous tentons de construire avec les opérateurs d'une manière générale. Vous savez que les lignes automatiques demain fonctionneront sur l'axe Est-Ouest, ou Ouest-Est, et que nous tentons d'avoir des services de bus qui au maximum desserviront l'axe Nord-Sud. Donc nous travaillons sur cet axe en Paris, petite couronne.
D'accord, ceux qui habitent en banlieue nord, puis descendent dans le sud et l'inverse. Voilà pour les précisions à 7h. La droite sénatoriale a déposé une proposition de loi pour assurer un véritable service minimum dans les transports aux heures de pointe. Pourquoi vous ne la votez pas?
Bon, d'abord parce que c'est assez largement incantatoire de déposer un projet de loi 10 jours avant une grève, et Monsieur Retailleau le sait parfaitement bien. Et puis moi j'ai eu l'occasion de rappeler que la loi de 2007, elle permet de concilier un droit important en France qui est le droit de grève, et elle permet d'informer les voyageurs au mieux et de préparer le plan de transport au mieux en obligeant les grévistes à se déclarer 48 heures à l'avance de manière à pouvoir produire cette information. Le service minimum, c'est un sujet ancien. Je rappelle d'ailleurs que la loi est très claire sur le sujet.
Elle l'avait prévu. Nicolas Sarkozy avait prévu une loi d'un service minimum, mais il est très très minimum.
Même d'une manière générale, la loi française nous permet à l'État d'agir dès lors que les Français sont durablement empêchés de circuler, dès lors que les besoins essentiels de la nation ne sont plus satisfaits, dès lors que l'activité économique et sociale est durablement entravée. Donc l'État est tout à fait en capacité d'agir si la grève se perdurer ou perdurer, mais je précise que nous sommes évidemment dans le cadre de négociations avec les syndicats qui se poursuivent, nous sommes au contact et je ne doute pas que nous arriverons à trouver le chemin, y compris à la SNCF et à la RATP.
Alors c'est justement ce que j'allais vous demander maintenant. On a compris que ce serait plus ou moins le chaos jeudi et vendredi. Qu'en est-il de lundi? Est-ce que vous craignez une grève dure, qui va durer, qui sera longue?
D'abord, la crainte est plutôt mauvaise conseillère en politique. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a posé un calendrier qui est clair et vous l'avez rappelé. Expression de Jean-Paul Delevoye, lundi ou mardi, et dans les jours qui suivent, Édouard Philippe, le Premier ministre, prendra la parole pour donner très concrètement les grandes orientations, y compris les orientations relatives aux régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF. Et moi, je me situe dans ma réalité quotidienne, qui est le dialogue avec les syndicats, qui ont des propositions extrêmement précises, avec lesquelles nous discutons de façon adulte et responsable, dans des discussions qui sont loyales. Et encore une fois, je ne doute pas que nous arriverons à trouver un sentier de convergence.
Vous disiez il y a un mois, vous étiez sur France Inter il y a un mois face à Alexandra Ben Saïd, vous lui disiez nous avons un mois pour faire baisser la tension à la SNCF. Vous avez raté?
Non, mais moi je comprends parfaitement que ceux qui sont aujourd'hui titulaires des régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP, qui sont anciens, et qui sont des droits, de fait, des droits que les bénéficiaires considèrent comme naturels. Je comprends parfaitement, si vous voulez, qu'ils les défendent, mais je pose simplement un élément de fait à la SNCF aujourd'hui. Enfin, ces régimes, ils sont fragiles aujourd'hui. Écoute, ils sont fragiles parce que, comme partout, vous avez de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. À la SNCF, vous avez 140 000 cheminots actifs pour 250 000 retraités de la SNCF. Donc un déséquilibre démographique assez massif qui conduit l'État chaque année, c'est-à-dire les Français, à payer 3,3 milliards d'euros. C'est 700 millions d'euros à la RATP, c'est 800 millions pour les mineurs, et donc au total, quand vous prenez les 10 régimes spéciaux, c'est à peu près 9 milliards d'euros qui sont payés par les contribuables pour soutenir des régimes spéciaux.
C'est beaucoup d'argent, Jean-Baptiste Djebbari, mais une note confidentielle de la SNCF parue en 2017 montre que mettre fin aux régimes spéciaux va coûter très cher aux finances publiques également. Ça va coûter même peut-être plus cher dans un premier temps que les chiffres que vous annoncez. Oui, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien évalué les choses?
Alors, je suis sûr en tout cas que cette note de 2017, elle ne prend pas en compte la réforme de 2018 par construction et que les chiffres que j'ai évidemment regardés attentivement cette note et que les chiffres qui sont avancés ne correspondent pas à la réalité de la SNCF d'aujourd'hui.
Ça va coûter combien de supprimer les régimes spéciaux à la SNCF? Ça va coûter combien aux contribuables?
D'abord, c'est aujourd'hui que ça coûte aux contribuables. Je l'ai annoncé, les 10 régimes spéciaux les plus importants, oui, c'est 9 milliards d'euros par an.
Et les supprimer, ça va coûter combien?
La transition, elle sera longue. C'est un coût que l'État assume. Nous avons décidé de prendre le temps de faire cette réforme. Nous avons parlé de 10 ans, de 15 ans possiblement pour faire cette transition. Et évidemment, ça aura un coût, mais c'est normal, si vous voulez, de trouver le bon chemin et d'avoir quelque chose qui soit progressif pour des gens qui sont rentrés et qui nous ont beaucoup dit qu'ils avaient un contrat moral. Et moi, je le comprends, ça. C'est pas pareil d'être depuis 2 ans à la SNCF que d'être à 5 ans ou à 10 ans de la retraite et de se dire quelque part, là, mon contrat, il est substantiellement déséquilibré ou modifié.
Mais justement, ça va concerner qui, en fait? Ça va concerner aujourd'hui un cheminot qui est à la SNCF depuis 2 ans, qui est à la SNCF depuis 10 ans.
Il y a deux façons de le voir. Soit vous raisonnez en génération, c'est-à-dire après la génération où vous êtes concerné, avant vous n'êtes pas concerné. Soit vous, comme le proposent certains syndicats, vous raisonnez en distance à la retraite. Pour être clair, vous êtes à 5 ans de la retraite, vous êtes à 10 ans de la retraite, vous êtes concerné ou pas par la réforme. Ce sont des propositions qui sont faites.
Mais qui sont concernés? Parce que, pardon, on entend depuis 3 semaines, ça contribue au flou. On a d'abord entendu la génération 63, c'était le Premier ministre qui disait ça.
C'était le rapport de Levoye.
Oui, c'était le rapport de Levoye. Ensuite, on a dit non, ce ne sera pas la génération 63, ce sera la génération 70 qui sera concernée. Maintenant, on entend la génération 79. Est-ce que vous vous êtes décidé?
Non, le Premier ministre a été clair. Il a dit qu'il était prêt à poser des durées de transition qui soient assez longues. Possiblement plus longue que ce qu'avait annoncé le rapport de Levoye, sans aller jusqu'à la clause du grand-père qui consistait finalement à faire porter la réforme simplement sur les nouveaux entrants du marché du travail. Entre tout ça, il y a un curseur qui peut bouger. Et je vous lis, il y a deux façons de voir les choses.
Donc entre quoi et quoi? Donnez-moi l'échelle.
Entre la clause du grand-père et la génération 63. Il y a tout un éventail.
C'est très large, effectivement.
C'est effectivement très large. Et on doit pouvoir trouver des chemins pour chaque secteur. Et ce n'est pas pareil de partir à 52 ans ou à 53 ans aujourd'hui à la SNCF ou à la RATP que dans d'autres régimes où vous avez des âges de départ qui sont déjà plus importants.
Est-ce que la loi va prévoir la date d'application, la date de fin des régimes spéciaux?
Oui, la réforme, le projet de loi prévoira la date de mise en service et effectivement la date d'extinction des régimes spéciaux et de convergence
D'accord,
dans le
j'ai cru comprendre ce que Jean-Paul Delevoye disait, la loi ne fixera pas la date et ce sera ensuite aux entreprises chacune de négocier la fin.
Non, alors les entreprises effectivement négocieront également en interne un certain nombre de dispositifs qui sont d'ailleurs demandés par les syndicats, notamment en termes de régimes complémentaires.
Les Français soutiennent à 60 voire 70% ce mouvement de grève. Ça vous étonne, ça vous interroge?
Non, mais ça ne m'étonne pas, parce que je pense que ma génération, celle d'après, a toujours pensé qu'elle n'aurait jamais de régime de retraite. Donc je pense qu'il y a intériorisé chez les Français le sentiment que le régime actuel, il est assez inégalitaire et par ailleurs, il n'est pas soutenable dans le temps.
Jean-Baptiste Djebbari était avec nous. Merci et belle journée à vous.
À vous aussi.
Merci Léa. Rendez-vous à 8h20.